en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, le lundi 7 février 2011, dans le cadre des entretiens de l'Académie, l'académicien Pierre Mazaud a donné, devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance, une communication qui portait pour thème et pour titre l'intérêt général. Pierre Mazaud, élu le 25 décembre 2005 au fauteuil précédemment occupé par Alice Saunier-Seyté, a été, parmi ses hautes fonctions au service de la République, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale durant 7 années, puis membre et président du Conseil constitutionnel en 2004. Entrez dans la salle des séances, écoutez Pierre Mazaud.
L'intérêt général fait en réalité partie de ces notions dont on est familier, mais qui, curieusement, résistent à toute définition, ou tout au moins s'y prêtent particulièrement difficilement. C'est d'ailleurs sans doute la richesse de son contenu, mais aussi d'une incontestable faculté d'adaptation. Le doyen Wedel jugeait l'intérêt général indéfinissable en ce sens que, selon les temps, les lieux et les opinions, elle, la notion, reçoit des contenus fort variables. Mais la vitalité de la notion ne tiendrait-elle pas précisément à la difficulté dans laquelle on est de pouvoir en donner une définition satisfaisante, d'autant qu'elle se réfère davantage à des objectifs qu'elle n'est fondée sur des certitudes. Pourtant, cet intérêt général n'a cessé de faire partie de mes fréquentations, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai fait très tôt sa connaissance dans ma famille, mais j'ai surtout appris à mieux le connaître en m'attachant à servir deux hommes d'exception dont il conditionnait l'action. Je veux parler de nos anciens confrères, Michel Debré et Jean Foyer. Je me suis efforcé de le faire prévaloir aussi souvent que je l'ai pu, mais je le reconnais avec des résultats variables dans le cours de mon action publique. J'en avais d'ailleurs fait le thème central du discours que j'ai prononcé à l'Élysée au seuil de l'année 2006 en qualité de président du Conseil constitutionnel. Cet intérêt général, il est en tout cas au cœur de l'histoire de notre pays, qu'il se dénomme bien commun, intérêt de la couronne, intérêt public, voire même intérêt national ou intérêt de l'État. Il a le plus souvent servi d'objectif aux actions qui ont assuré sa grandeur. Et c'est assurément parce que l'intérêt royal s'est largement confondu avec l'intérêt général, incarné par quelques grands rois et quelques grands ministres, et servi sans état d'âme, au point d'ailleurs de se confondre parfois avec la raison d'État, par les légistes, à un moment crucial de son histoire, que ce pays a pu surmonter les simples épreuves qui ont accompagné son édification. Il serait long, beaucoup trop long, sans doute faudrait-il, Monsieur le Président, une autre communication pour traiter de la lente et variée évolution au cours de laquelle aucune définition véritable n'a cependant été retenue. Je dirais en quelques mots simplement que les Grecs, et plus particulièrement Thucydide, que je cite, « Toute politique devrait être rattachée au souci du bien commun, à la droiture. » Ces textes inspireront plus tard nos légistes. Je passe rapidement en disant qu'à partir du XIIe siècle, des conceptions vont s'affronter entre morale et vertu, utilité commune, intérêt commun, en accord ou tout au contraire, s'opposant d'ailleurs à saint Thomas d'Aquin, pour lequel, je le cite, « le bien est supérieur à l'utilité, car l'intérêt est considéré comme subjectif et matériel, tandis que le bien est objectif et matériel. » Bientôt, c'est la politique qui l'emportera quand les rois de France considéreront que les parlements devaient s'abstenir de faire porter leur contrôle sur cette notion d'intérêt général, car ce serait versé dans un contrôle d'opportunité. C'est une remarque qu'il nous arrive d'entendre encore aujourd'hui. À la Révolution, Alors que les encyclopédistes ne traitent absolument pas de ce problème. Seul Rousseau précisera que l'intérêt général est l'expression de la volonté générale comme dépassement des intérêts particuliers. C'est tout au contraire à la seule assemblée qu'appartient l'analyse, refusant par là même qu'il puisse exister un juge de la loi, idée odieuse à la tradition révolutionnaire française. Par la suite, c'est en fonction d'une vision que l'on aura de la démocratie que se construit l'idée que l'on doit avoir de l'intérêt général. Alors qu'en est-il aujourd'hui, alors que cette notion n'a pas de statut constitutionnel? En ce qui me concerne, plusieurs des fonctions qu'il m'a été donné d'exercer m'ont fait approcher au plus près la notion qu'il me revient d'évoquer aujourd'hui devant vous. C'est à partir de deux d'entre elles que je souhaiterais mener cette réflexion, car je ne peux m'empêcher de constater que si le Parlement a avec l'intérêt général une relation privilégiée, le Conseil constitutionnel a été amené, au fil des années, à en faire un usage qu'il me paraît intéressant de tenter d'expliciter. C'est à partir de cette double appartenance, si je puis dire, que s'est développée ma propre réflexion. D'abord, le Parlement. Dans la tradition française, c'est en effet au Parlement qu'il appartient de déterminer l'intérêt général. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, il peine à bien remplir cette fonction, et ce sont ces deux points de vue que je vais successivement exposer. Le Parlement, incarnation de l'intérêt général. Cette donnée constitue l'un des fondements essentiels du système institutionnel français et plus généralement de notre droit public. Héritage de Rousseau, des principaux acteurs de la Révolution, comme je le rappelais tout à l'heure, parmi lesquels Seyès doit être distingué, produit d'un amalgame subtil entre théorie et histoire, elle est suffisamment connue pour ne pas exiger de non-développement. Dans son introduction au droit public, Madame Elisabeth Zoller a consacré des pages particulièrement inspirées à ce qu'il est convenu d'appeler la théorie de la souveraineté nationale, que l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen va ériger en axiome. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane pas expressément. Or, cette idée de la représentation nationale, pierre fondatrice du modèle républicain français, est précisément inséparable de la croyance en l'existence d'un intérêt public, distinct des intérêts privés, et constitué des intérêts déclarés communs à l'ensemble des parties prenantes dans un contrat social. Citons Seyès dans « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Il faut que dans la décadence même des mœurs publiques, lorsque l'égoïsme paraît gouverner toutes les âmes, il faut, dis-je, que même dans ces longs intervalles, l'assemblée d'une nation soit tellement constituée que les intérêts particuliers y restent isolés. De ce concept très fort de la représentation nationale, qui imprègne encore le fonctionnement de notre système politique, même si, on le verra, hélas, il en prévaut aujourd'hui une conception quelque peu édulcorée, découle toute une série de conséquences. Conséquences liées entre elles, en même temps qu'inséparables de la notion d'intérêt général. Ainsi, le député français représente non ses électeurs, non sa circonscription, mais la nation tout entière. Chaque député étant le représentant de la nation, il représente non des intérêts particulier, mais un intérêt national, donc général. Sa volonté étant guidée par l'intérêt général, la loi étant toujours l'expression d'une volonté générale, comme le proclame l'article 6 de la Déclaration de 89, expression, je me reprends, de la volonté générale, la loi ne peut avoir qu'un objet général, et s'il en allait autrement, note très justement Portalis, je le cite, le législateur ne serait bientôt plus que juriste consulte, les intérêts particuliers assiégeraient la puissance législative, ils la détourneraient à chaque instant de l'intérêt général de la société. Le principe de la généralité de la loi est une condition de l'égalité de tous les citoyens devant elle, comme le formule de façon usureuse le même article 6 de la Déclaration de 89, la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ainsi, l'intérêt général est-il au cœur du système représentatif français, tel que l'ont enfanté, je le répète, les hommes de la Révolution, et tel qu'il va être mis en œuvre par notre droit public, selon lequel le Parlement et donc la loi sont voués à exprimer l'intérêt général. Or, force, hélas, est de reconnaître que ce rôle du Parlement, chantre de l'intérêt général à travers le vote de la loi, n'est plus ce qu'il était longtemps resté au long d'une histoire pourtant ô combien tourmentée. Il est aujourd'hui contesté, je parle du rôle du Parlement, amoindri, concurrencé. La contestation de la raison d'être du Parlement, et donc sa vocation à incarner l'intérêt général, n'est pas un phénomène nouveau dans notre pays, qui a au contraire une longue tradition d'anti-parlementarisme, faite d'apports variés. Nourrie par les événements, cette contestation a pris une forme plus déclarée à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le général de Gaulle lui-même a entrepris de mettre en cause l'aptitude et la légitimité du Parlement à incarner seul l'intérêt général. La préoccupation apparaît dans le discours de Bayeux. Je le cite, « Au chef de l'État, la charge d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. Ainsi, ce n'est point à ce dernier qu'est imparti le rôle principal. » Et l'on peut penser que dans la réforme d'octobre 1962, qui a permis l'élection du chef de l'État au suffrage universel, cette considération a eu tout son poids. C'est l'une des raisons, on n'a pas la seule, certes, pour lesquelles je n'ai jamais été favorable à ce mode d'élection. Plus incisive encore est la critique adressée à un système qui, dès lors qu'il fait la plus grande place aux partis, est jugé comme condamnant ceux que ces partis désignent pour être élus au Parlement et y représenter l'intérêt de leur propre parti au détriment de l'intérêt général. L'idée est fortement exprimée dans le tome 3 des Mémoires de guerre, faut-il y voir ici un paradoxe ? Je vois, dit le général, j'écris, en l'état, non point comme il l'était hier et comme les partis voudraient qu'ils le redeviennent, une juxtaposition d'intérêts particuliers d'où ne peuvent sortir jamais que de faibles compromis, mais bien une institution de décision, d'action, d'ambition, n'exprimant et ne servant que l'intérêt national. Pour le général de Gaulle, intérêt national et intérêt général se confondent le plus souvent. Cette contestation de la possibilité pour le Parlement d'exprimer valablement l'intérêt général et de l'exprimer seul, conforté par la gestion chaotique de la IVe République, explique la place faite par la Constitution de 1958 tant au référendum, procédure de recours, qu'au pouvoir exécutif, dont Michel Debré considérait d'ailleurs, comme il l'a déclaré en 1959 devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale lorsqu'elle délibérait du règlement de sa propre Assemblée, que le pouvoir exécutif est détenteur de la souveraineté nationale au même titre que les assemblées. Contester le rôle du Parlement dans l'expression de l'intérêt général est aussi désormais un rôle amoindri. Pour une assemblée parlementaire, déterminer l'intérêt général est assurément, ou doit être assurément, un objectif permanent. Il reste que de par la nature des hommes comme de la complexité des choses, l'idéal révolutionnaire n'est pas aisé à satisfaire. Car comme je le relevais en octobre 2006 à l'occasion d'un colloque organisé au Conseil constitutionnel sur le sujet, les mécanismes démocratiques de prise de décision font aisément plus grand cas d'un intérêt catégoriel, actuel, organisé et bruyant que d'un intérêt plus ample et plus éminent, mais aussi plus diffus. Et ces mécanismes arbitrent avec difficulté lorsque la problématique devient complexe. En outre, dans la période moderne, un certain nombre de facteurs sont venus affaiblir la relation qui établit l'idée de la souveraineté nationale entre les représentants de l'intérêt général, notamment du fait du renforcement de leur amarrage local au détriment de l'exercice de leur fonction nationale. Ainsi en arrive-t-on à constater le glissement de la démocratie représentative à la démocratie dite participative, qui aboutit, d'une certaine façon, à privilégier les demandes exprimées par les plus bruyants, les plus diligents ou les plus influents, qui parviennent souvent à détourner, voire à oblitérer le dessein général. Notre confrère Raymond Boudon, dans une analyse pertinente, « Renouveler la démocratie, mode d'emploi », note bien, je le cite, « cet étiolement de la démocratie représentative au profit d'une démocratie participative ». Ajoutant que le pouvoir médiatique, je me demande toujours quel pouvoir, on est en droit donc de s'interroger, en réalité la presse s'est arrogée le fait d'en détenir un. Que le pouvoir médiatique, dit notre confrère Boudon, exacerbe les intérêts particuliers. Autrement dit, ajoute notre confrère, les parlementaires ne jouent plus leur rôle de représentants de la nation. Jean Carbonnier, en juriste qu'il était, ne dit pas autre chose. Il y a dans notre société une judiciarisation du droit objectif en droit subjectif. En effet, cette démocratie participative, or le fait qu'en résulte une inflation de textes, répondant ces mêmes textes à de seuls intérêts particuliers, ce qui n'est naturellement pas sain, conduit à cette judiciarisation dont la dernière et plus récente manifestation est naturellement pour moi la question prioritaire de constitutionnalité. Il y a donc pour moi une démission du politique, donc un affaiblissement de l'État, pour ne satisfaire que des intérêts catégoriels et bruyants, face au seul intérêt général, combien plus éminent, mais plus diffus, encore une fois. En réalité, la politique est devenue compassionnelle, est devenue beaucoup plus compassionnelle que rationnelle. L'individu, en effet, tel une sorte d'électron libre, tente de trouver refuge dans le communautarisme, dont les exigences contribuent à dissoudre la conception et la détermination de l'intérêt général. Un État digne de ce nom doit s'opposer à de telles dérives, sauf à y perdre naturellement son autorité. Ne laissons pas un véritable droit à l'autonomie pour tous, comme l'a écrit un très grand professeur de droit public. Que penser de cette dernière proposition de loi d'un député UMP tendant à la reconnaissance d'un droit à la sexualité pour les handicapés ? À ce glissement contribuent des facteurs internes. La transformation de la fonction de représentation qui s'analyse désormais davantage comme un office dont le titulaire aspire à la pérennité que comme une mission ne constituant qu'une élévation provisoire de celui qui en a été jugé digne par le suffrage. Le cumul des mandats qui a pris beaucoup d'ampleur et qui a pour effet d'affaiblir l'objectif d'intérêt général en le mettant systématiquement en concurrence avec des intérêts locaux particuliers, même s'il existe, cela n'est pas contestable, un intérêt général d'ordre local. Certes, oui, il y a intérêt d'ordre local, mais si j'étais personnellement toujours hostile à tout cumul de mandats, c'est précisément en fonction de la dilution de l'intérêt général. En effet, pour des raisons liées à la seule élection locale, les parlementaires dits cumulards font triompher cet intérêt local sur l'intérêt général. J'ai lu, il y a quelques jours, l'entretien de Jean-Noël Jeannet dans le journal Le Monde. Je le cite. « Il faut mettre fin au cumul des mandats. Bel exemple de conflit d'intérêts. Je ne parviens pas, ajoute-t-il, à concevoir comment on peut être à la fois ministre responsable d'une politique nationale et maire d'une ville ou président de conseils généraux ou régionaux, dont on est alors voué à défendre les intérêts spécifiques. Et pour terminer, ajoute-t-il, les Français sont, il est vrai, demandeurs de l'interdiction radicale du cumul, mais pas le personnel politique. Alors sans doute, je le pense, faudrait-il un jour procéder par voie de référendum. Ce glissement a aussi des causes externes, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Personnalisation qui privilégie l'individu par rapport à l'institution et à l'intérêt général. Toute puissance de la communication qui ne prend en compte l'objectif d'intérêt général que lorsqu'il sert sa cause. Poids des groupes de pression qui sont passés de l'ombre à la lumière. Rôle prééminent de l'argent et donc des intérêts particuliers. Groupes de pression, lobbies qui défendent des intérêts essentiellement particuliers n'ayant aucune légitimité. Au contraire, par exemple, je le reconnais volontiers, des syndicats qui, eux, représentent des intérêts communs en bénéficiant d'une sorte de légitimité sociale. Mais la différence entre de tels intérêts communs et l'intérêt général, c'est que ces derniers doivent finalement se soumettre à la seule loi, expression de la volonté générale. Enfin et surtout, c'est à travers l'acte qui pendant longtemps a magnifié sa puissance, la loi, que le Parlement peut constater sa propre capitis diminutio, notamment illustrée au travers de deux grandes novations. D'une part, la loi expression de la volonté générale fait désormais l'objet d'un contrôle de sa constitutionnalité. De ce contrôle, auquel échappent, il est vrai, les lois adoptées par voie de référendum, le Conseil constitutionnel a tiré la conséquence dans la décision du 23 août 1985, loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, qui contribue à la démystification. La loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. D'autre part, selon l'acception qui a fini par prévaloir de l'article 55 de la Constitution, les juges se reconnaissent désormais le pouvoir d'écarter l'application de la loi, consacrant ainsi du même coup l'amoindrissement du rôle de l'organe dont elle émane. Capitis diminutio, je pense devoir faire une parenthèse, encore renforcée par ce que l'on a appelé l'inversion du calendrier. Inversion du calendrier votée par le Parlement lui-même comme une attitude suicidaire totalement inconsciente. L'élection législative, suivant d'un mois l'élection présidentielle, et même si les Français, comme le disait volontiers le président Pompidou, aiment avoir de fer au feu, cette élection qui suit à un mois l'élection présidentielle a une conséquence certaine. La majorité nouvellement élue l'est en fonction du président élu dont elle se réclame. Tant et si bien que le chef de l'État devient aujourd'hui le chef de la majorité dite présidentielle, forte majorité, du fait précisément d'une élection qui suit à un mois. Et les électrices et les électeurs français, pleins de bon sens, votent la plupart du temps pour les élections législatives, comme ils l'ont voté, je le répète, pour l'élection présidentielle. Oh, certes, bien sûr, on m'a souvent fait l'objection me disant que l'inversion pouvait être en quelque sorte inversée, soit par la dissolution, ce qui est quand même peu probable, quel intérêt aurait le président à dissoudre une très forte majorité, soit, évidemment, par la mort du président, c'est une hypothèse guère souhaitable. Attaché au principe majoritaire, encore que j'eus préféré à un tour, je reconnais ici la force des tenants du scrutin proportionnel. En effet, avec le système actuel, la majorité, les fortes majorités pouvant changer, on a parlé de lignes zigzagantes, c'est encore un professeur de droit public qui donne ce propos, de la défense et de la conception même de l'intérêt général. La majorité tenant à sa propre conception, ce qui ne garantit pas toujours, bien sûr, la prise en compte dans la conduite des politiques publiques des intérêts supérieurs de la collectivité. Contester amoindrit le rôle du Parlement en tant qu'interprète de l'intérêt général est également désormais concurrencé. Jusqu'à une époque récente, le Parlement disposait d'un monopole dans l'édiction de la norme déterminant l'intérêt général. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Plusieurs concurrents étant apparus, qui ont nécessairement empiété sur son rôle. Tel est, je le répète, certainement le cas du président de la République, dont on peut même considérer, en raison encore une fois de son mode d'élection comme de son domaine d'intervention, qu'il est un représentant. Tel est aussi le cas du gouvernement, qui ne procède plus du Parlement et auquel l'article 20 de la Constitution confère un large pouvoir de décision autonome. C'est l'autonomie qui caractérise également tant les autorités élues à la tête de collectivités décentralisées, dégagées d'ailleurs de tout contrôle a priori, que les autorités administratives indépendantes, dont le pouvoir politique conteste la légitimité, tout naturellement en les multipliant. On aurait garde d'oublier les institutions de l'Union européenne, qui édictent des normes dans toute une série de domaines, dans lesquels les États membres tendent à perdre le monopole du droit de la détermination à l'intérêt général. L'observation vaut pour les cours de justice européennes. La Cour du Luxembourg n'a-t-elle pas affirmé l'existence d'un intérêt général de l'Union qui dépasse les intérêts divergents des États membres et dont la définition relève des institutions de l'Union et notamment du Conseil? Quant à la Cour de Strasbourg, on connaît sa jurisprudence en matière de loi de validation, qui l'a conduit à censurer les motifs d'intérêt général retenus par le législateur national dès lors qu'ils ne revêtent pas un caractère impérieux dont elle est juge. Ainsi, le rôle du Parlement dans la détermination de l'intérêt général n'est-il pas tout à fait celui que lui avaient imparti les pères du régime représentatif? Mais ceux-ci n'avaient pas non plus imaginé que la notion puisse prendre dans la jurisprudence la place qui est devenue la sienne, et tout particulièrement, bien sûr, dans la jurisprudence d'un juge constitutionnel dont il ne concevait même pas l'existence. Tel est le deuxième objet de mon propos. Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif sanctionnés par le roi à peine de forfaiture. Le plaisir que l'on a rappelé ces beaux textes révolutionnaires, on pourrait ajouter d'autres citations à celles de cet article 10 de la loi des 16 et 24 août 1790, est grand comme fut grande leur portée. D'une certaine façon, et dans l'esprit de la phase de Portalis que j'ai citée tout à l'heure, ce texte trace la frontière entre l'intérêt général, domaine réservé du législateur, et les intérêts particuliers qui échoient naturellement au seul juge. Ainsi, l'Assemblée constituante régla-t-elle avec les parlements les comptes que la monarchie n'avait pu et n'avait su solder. De par son seul contenu, ce texte, application directe du principe de la souveraineté nationale, a une portée considérable. Il aura une conséquence tout aussi considérable, c'est celle de retirer toute assise à un contrôle de la loi par un juge, même fondé sur la Constitution. L'idée qu'il puisse exister un juge de la loi heurtera ainsi inexorablement pendant longtemps à la tradition française, telle qu'issue de la Révolution. Et elle ne cessera d'ailleurs de rencontrer ce mur théorique qui lui sera encore opposé à l'occasion des débats très intéressants qui auront lieu sur ce sujet devant la première Assemblée constituante lors de la libération de la Constitution de 1946. Jusque dans les années 1990, les groupes communistes de l'Assemblée nationale et du Sénat demandaient toujours la suppression de l'institution qu'est le Conseil constitutionnel. En même temps que l'article 10 que j'ai cité, la loi des 16 et 24 août 1790, exclut en quelque sorte les tribunaux judiciaires de l'accès à l'intérêt général, deux de ses corollaires, l'article 13 de la même loi et le décret du 16 Fructidor en 3, vont aboutir à la création de tribunaux d'une autre espèce, compétents pour juger des actes de l'administration, et qui, eux, à la fois paradoxalement et logiquement, vont peu à peu faire de la notion d'intérêt général l'un des éléments majeurs de leur propre jurisprudence, parfois même, d'ailleurs, à leur corps défendant. Car, comme le marque le rapport que le Conseil d'État a consacré en 1999 au sujet, son titre, « L'intérêt général est au cœur du droit public », au même titre que l'autonomie des volontés est le fondement du droit privé. Et si l'intérêt général est au cœur de ce droit largement prétorien qu'est le droit administratif, c'est que, contrairement d'ailleurs à ce qui existe dans les pays étrangers comparables, il a consacré l'existence d'une relation privilégiée entre l'intérêt général et ses notions clés du droit public français, que sont le service public, le domaine public, l'ouvrage public, le travail public. Elles ne peuvent être définies, constate le même rapport, que par référence avec la notion première d'intérêt général et trouvent en elles leur propre raison d'être. Ainsi, le juge administratif a-t-il été amené à faire un large usage de l'intérêt général, soit lorsque la loi pose elle-même une condition d'intérêt général, et il lui revient alors d'en vérifier la bonne application, soit parce qu'il trouve là, comme le dit le professeur Truchet dans le rapport du Conseil d'État, comme une source commode pour retrouver l'équilibre de ses pouvoirs d'appréciation et ceux de l'administration, sans pour autant se faire le juge de la loi. Qu'allait faire, lui, le juge de la loi, dans l'exercice de la fonction novatrice que lui a imparti l'article 61 de la Constitution de 58. S'agissant de l'intérêt général, le juge constitutionnel ne peut échapper à une sorte de profonde contradiction. Dès lors que le législateur utilise la notion d'intérêt général, comment, d'une façon ou d'une autre, s'empêcher d'apprécier cette utilisation au regard de la Constitution ? Pourtant, la prise en compte par le Parlement de l'intérêt général, à un moment donné, par une majorité donnée, participe d'une démarche substantiellement politique, dont on peut considérer qu'elle doit échapper à l'appréciation du juge. Mais alors, qu'en est-il si le résultat est une inconstitutionnalité ? Et le juge peut-il alors substituer son appréciation de l'intérêt général à celle du législateur dont il n'a pas la légitimité ? C'est à ces questions délicates que s'est confronté le Conseil constitutionnel. Même si l'expression d'intérêt général ne figure dans aucun des textes constituant ce que nous appelons le bloc de constitutionnalité, ni la Constitution, ni les préambules. Même, il est vrai, si la déclaration de 89 fait une légère référence à une notion parente comme le bonheur de tous. Mais le juge constitutionnel, mais encore une fois, si cette expression n'apparaît nullement, le juge constitutionnel ne pouvait faire abstraction de la notion. Sa prise de conscience, si l'on peut dire, prolongea celle qu'il eut de l'étendue possible de son champ d'intervention, puisqu'il faut attendre 1979 pour trouver la première décision, elle est du 12 juillet, dans laquelle figure l'expression d'intérêt général. Elle fut suivie en quelque sorte inexorablement d'un grand nombre d'autres, près de 150 à ce jour. J'irais même jusqu'à dire, compte tenu de la question prioritaire de constitutionnalité, peut-être 200 aujourd'hui, à travers lesquelles, je parle des décisions, transparaît bien la résolution qui a présidé à la démarche du Conseil. La détermination de l'intérêt général relève du seul législateur et le juge doit donc se garder de toute intrusion. En son état actuel, cette jurisprudence est constituée, me semble-t-il, de quatre composantes. La première est essentielle. Le Conseil se garde, je l'ai dit, de substituer la conception de l'intérêt général qu'il pourrait avoir à celle du législateur. On sait qu'il a très vite affirmé que la Constitution ne lui donnait pas un pouvoir général d'appréciation identique à celui du Parlement. Il n'a pas succombé à la tentation s'agissant de la détermination de l'intérêt général. Et il rejette les moyens fondés sur une inexacte appréciation de celui-ci. Ce faisant, il se fait le scrupuleux héritier de la théorie de la représentation telle que je l'ai rappelée tout à l'heure. Le législateur ne peut agir, lui, que dans l'intérêt général. Non seulement le Conseil constitutionnel reconnaît la seule légitimité du législateur à déterminer l'intérêt général, mais, et c'est la deuxième composante, il a élaboré toute une jurisprudence consistant à permettre à ce même législateur d'apporter, pour cause d'intérêt général, des restrictions à un certain nombre de droits et libertés. Ainsi en va-t-il, sans que l'énumération soit exhaustive, du principe d'égalité, du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, du principe de libre administration des collectivités territoriales. De la même façon, le Conseil a très vite admis que le législateur, dérogeant au principe de la séparation des pouvoirs, puisse procéder à ce qu'on appelle des validations, l'habilitant ainsi à modifier, pour des raisons d'intérêt général, les règles que le juge a pour mission d'appliquer. La troisième composante, le Conseil a considéré que ce que l'on a appelé des démembrements de l'intérêt général pouvaient être gardés comme des principes ou objectifs dotés d'une pleine valeur constitutionnelle, par suite susceptibles d'être conciliés avec l'ensemble des autres principes et objectifs de valeur constitutionnelle. Tel est ainsi le cas de la sauvegarde de l'ordre public, de la continuité du service public, de la lutte contre la fraude fiscale. On ne saurait méconnaître l'audace, en l'occurrence, de la démarche du Conseil, qui épouse celle du législateur et fait droit, de cette façon, à l'objectif d'intérêt général retenu par celui-ci. Comme le note Jean-Éric Chotel dans sa contribution au rapport public du Conseil d'État en 1999, je le cite, « parce qu'il apparaît comme un solde de légitimité démocratique, l'intérêt général est exogène à la Constitution, tout en devant être articulé avec elle. Cette articulation entre Constitution et intérêt général ne peut laisser naturellement le juge constitutionnel indifférent. » L'importance ainsi prise par l'intérêt général dans la législation et consacrée par le Conseil constitutionnel ne pouvait pas ne pas conduire celui-ci sans remettre en cause dans son principe la libre appréciation du législateur, à tracer néanmoins quelques limites. Et c'est la quatrième composante de sa jurisprudence. S'interdisant, on l'a dit, d'opérer un contrôle direct de l'intérêt général, qui reviendrait à rechercher un détournement de pouvoir, il procède d'une autre façon par la voie d'un contrôle de proportionnalité qui prend en réalité deux formes. D'une part, il vérifie l'adéquation entre le dispositif législatif et l'objectif d'intérêt général invoqué. S'agissant du principe d'égalité, il utilise ainsi le plus souvent à cet effet un considérant de principe bien connu, dont le sens est particulièrement clair. Je le cite, « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. D'autre part, lorsqu'est en cause une mesure qui porte atteinte à un droit ou une liberté protégée, le Conseil s'autorise à vérifier que l'intérêt général invoqué pour la justifier est de caractère suffisant. Ainsi se reconnaît-il la possibilité d'évaluer le poids de l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, sans pour autant se mettre à sa place dans le choix de celui-ci. Il appartient donc au juge constitutionnel de bien sentir, comme le rappelait tout à l'heure, avant notre entrée, l'un de nos confrères. Ainsi, le Conseil constitutionnel assure-t-il la place éminente qui doit être celle de l'intérêt général dans l'édiction des normes, tout en se gardant d'immixtion dans ce qui relève de la seule décision politique. Oh, sans doute, la frontière entre le contrôle de proportionnalité et celui de l'appréciation du caractère d'intérêt général poursuivi est-elle parfois peu marquée. Mais je pense que, confronté à cet exercice difficile, le Conseil a su sauvegarder l'essentiel. Sans nullement se substituer au législateur, il est parvenu à confirmer la place de l'intérêt général au cœur de l'action publique, en faisant en sorte qu'il trouve à se concilier avec les droits et principes proclamés par les grands textes qu'il a naturellement à appliquer. On peut légitimement estimer, me semble-t-il, que les auteurs ou inspirateurs de ces grands textes auraient quelques raisons de lui délivrer un satisfecit. Pendant longtemps, même lorsqu'il n'était pas ouvertement proclamé, l'intérêt général a conditionné l'action publique, de même qu'il a inspiré fortement l'action des individus. Il est difficile, hélas, de soutenir qu'il en va exactement de même aujourd'hui. Et pourtant, c'est certainement lorsque la société devient plus cruelle, lorsque la famille vacille, lorsque l'argent détruit les valeurs, lorsque l'indifférence à l'autre s'accroît, lorsque les raisons d'État prévalent au mépris des droits élémentaires des personnes, lorsque les antagonismes s'avivent à raison même de leur fondement religieux, lorsque la technique devient déforante et fait fi de la morale, lorsque sombre l'esprit civique, c'est certainement lorsque les perspectives sont à ce point obscurcies que la référence obstinée à l'intérêt général permet de ressourcer les actions individuelles et de réorienter l'action publique. Pour être exemplaire, celle-ci doit être rapportée sans cesse et bruyamment à l'intérêt général. Plus qu'en tout autre temps, cette exigence demande à ceux qui en sont comptables un grand courage, une grande obstination, un grand désintéressement. Alors confessons nos propres défaillances, mobilisons-nous pour les surmonter, et croyant que l'intérêt général connaîtra cette résurgence qui seule peut nourrir l'optimisme dans l'avenir d'un monde dont certaines aspérités sont devenues si désespérantes. Comme l'écrit Pierre Rosanvallon également dans Le Monde, la philosophie républicaine de l'intérêt général implique une certaine exemplarité des comportements. Mais s'il nous appartient de surmonter nos propres défaillances, rappelons que c'est bien avant tout au législateur, certes sous la vigilance du Conseil constitutionnel, de respecter le mandat qu'il détient du peuple, n'agir au travers des lois qu'en fonction du seul intérêt général. J'ai cité au début de cette communication Michel Debré, qu'il me soit permis de conclure parce qu'il écrivait déjà en 1934 dans sa thèse « Artisanat, classe sociale ». Depuis de longues années est oublié l'enseignement des constituants et des conventionnels qui ne voulaient pas qu'entre l'État et les citoyens puissent s'interposer des corporations dont l'existence même implique au profit de leurs membres certains privilèges. La société se divise ainsi en catégories distinctes et souvent hostiles. Chacune d'elles entend surveiller la marche des affaires publiques et acquérir par là même de nouvelles prérogatives. Il appartient, ajoutait-il, aux législateurs, en brisant les coalitions égoïstes, d'affirmer la supériorité de l'intérêt général sur les seuls intérêts particuliers. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Pierre Mazeaud, dont vous pouvez retrouver la fiche biographique sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Pierre Mazeaud, vainqueur de l'Everest et secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, a également évoqué cet épisode de sa vie dans une émission que vous pouvez retrouver sur Canal Académie. Merci d'avoir été avec nous.